14h, 16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces deux heures sur Sud Radio. On évoque de plus en plus la jouissance féminine et c'est tant mieux. Néanmoins, il reste encore trop de flou et je suis sûre que deux heures pour évoquer le plaisir féminin ne sera pas trop, puisqu'il y aurait encore au moins une femme sur deux qui délaisse la sexualité. Alors pourquoi ? C'est sans doute pour de multiples raisons. Néanmoins, je suis sûre que si les femmes comprenaient mieux leur corps, si elles parvenaient à mieux savoir ce qui se passe à l'intérieur de leur corps, justement, eh bien, elles seraient plus nombreuses à obtenir un orgasme. Tout comme si les femmes étaient plus à l'aise dans leur corps, elles sauraient mieux s'ouvrir, et je dis bien s'ouvrir à leur partenaire, et l'aider à ce qu'il puisse devenir un bon amant. Parce que si bien sûr il existe des hommes égoïstes et donc incapables de s'occuper correctement de leur amante, la majorité des hommes rêvent de faire jouir leur partenaire. Donc, je vous propose qu'on décode ensemble la jouissance féminine grâce à Christian Jamin, qui est gynécologue et qui milite beaucoup pour le plaisir. Donc, vous allez peut-être, à 16h, mieux comprendre le rôle du clitoris, du vagin, du périnée, du col de l'utérus, des petites, des grandes lèvres, sans oublier l'anus et pourquoi pas les seins et bien sûr le cerveau. Lui aussi, paraît-il, zone érogène. Donc n'hésitez pas à venir poser vos questions. Vous nous appelez au 0826 300 300. Christian Jamin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes gynécologue et vous vous occupez beaucoup du plaisir des femmes. Vous essayez de les aider à se dévoiler elles-mêmes.
Oui, alors juste une petite remarque.
Oui.
Vous n'avez pas cité la bouche dans les organes sexuels.
Non, c'est vrai, c'est vrai.
Ah,
j'en ai peut-être oublié d'autres encore. les seins, non, je les ai cités. Non, je n'ai pas cité les seins non plus.
Non plus.
Ouais, oui. Si, pourquoi les seins? Pourquoi pas les seins? Oui, vous avez raison, mais j'ai oublié les oreilles aussi.
Oui, alors...
Cherchez-moi, taquinez-moi.
Oui, je vous taquine.
C'est du harcèlement que j'apprécie.
Je suis un homme. Donc, parler du plaisir féminin, pour moi, c'est j'allais dire, c'est partir sur des terrains très mouvants, si ce n'est inconnu. Le théoricien n'est pas l'homme forcément de terrain. Et puis... Le plaisir féminin, effectivement, c'est tellement complexe, c'est tellement intriqué avec le cerveau, avec... Depuis des décennies, on cherche point G où il faudrait appuyer comme par miracle pour s'envoyer en l'air, ou l'hormone qui permettrait de rendre toutes les femmes heureuses, etc. Et tout ça, c'est des échecs retentissants. Donc ça veut dire que la femme est vraiment dans la subtilité et c'est compliqué pour nous qui le sommes, comme tous les hommes, on est la bière, le foot et le sexe, mais on n'a pas cette complexité.
Oui, enfin, je ne suis pas si sûre que dans les années qui viennent, avec la difficulté des rapports entre les hommes et les femmes, vous ne soyez pas aussi des peines à jouir. Ça, c'est une autre histoire. Bon, en tout cas, Christian Jamin, entre les confidences que vous entendez, votre expertise de professionnel sur le terrain, on devrait arriver quand même, et les témoignages qu'on va entendre, on devrait quand même un petit peu arriver à tordre quelques idées reçues.
Voilà, je pense que...
Et surtout, il semblerait qu'il y ait 50% de femmes qui soient sexophobes, c'est-à-dire de femmes qui, a priori, ne trouvent pas le sexe si intéressant que ça, et dès qu'elles peuvent s'en détournent. C'est énorme, ça fait quand même une femme sur deux. Alors, il est certain que si on faisait un sondage par rapport à celles qui nous écoutent, on aurait certainement un chiffre plus faible, parce que écouter mon émission, déjà, c'est un signe qu'il y a quand même une petite lumière qui clignote au fond du ventre.
Oui, mais l'intérêt pour le sexe des femmes ne se limite pas à l'orgasme. Ça se limite aussi à avoir une vie affective, pour ne pas dire affectueuse, et pour certaines, pour beaucoup d'entre elles, le sexe, c'est le prix à payer, quasiment. C'est-à-dire qu'elles ne font pas l'amour pour leur propre jouissance, mais pour avoir un homme avec qui a envie de rester et de leur apporter quelque chose de différent.
Et puis, c'est terrible ce que vous dites.
Bah oui, mais c'est pourtant la réalité. Et puis, il y a le sexe aussi, ce qu'on voit tous les jours. Enfin, moi, en tout cas, en tant que gynécologue, c'est le sexe pour faire des enfants. C'est-à-dire qu'il y a énormément de femmes qui confondent désir de maternité et sexualité, et une fois que la maternité est arrivée, le sexe devient nettement moins intéressant. Et donc le sexe pour le sexe et le sexe pour le plaisir et la jouissance, effectivement, je suis sûr qu'on est en dessous des 50% dont vous parlez.
Alors, moi, pour moi, un des premiers obstacles à la sexualité féminine, c'est son rapport au corps.
Alors oui, on voit beaucoup... Alors, on en a parlé dans une émission précédente, c'est-à-dire que la disparition de la sexualité, ou tout au moins le désintérêt de la sexualité avec l'âge, revient souvent, pour une femme, à ne plus aimer son corps, donc à ne plus vouloir en avoir, cette espèce de narcissisme qui la rend heureuse, et en vieillissant, elle s'aime moins, donc elle a plus envie de se faire aimer. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'émission qu'on a fait la dernière fois là-dessus, eh bien, on est arrivé quasiment avec les auditrices à la démonstration inverse, c'est-à-dire que ça peut être aussi une période de liberté où l'image devient moins importante que le plaisir personnel.
Oui, mais je pense que beaucoup de femmes ne sont pas à l'aise dans leur corps, soit parce qu'il y a des diktats de ce qui devrait être le corps féminin, soit parce qu'elles n'ont pas tout simplement appris à être bien pour elles-mêmes, parce qu'il y a, comme vous l'avez dit très justement, beaucoup de femmes vont faire l'amour pour leur partenaire, pour se marier, et puis ensuite avoir des enfants, et puis ensuite peut-être éventuellement avoir la paix. C'est un peu triste ce que je dis, mais c'est une réalité aussi. Donc déjà, moi j'aime bien l'expression « une femme doit s'ouvrir ».
Alors, je pense que c'est je pense que tout le problème est là. C'est-à-dire que faire l'amour, c'est se donner, tant d'un côté que de l'autre, c'est-à-dire de faire abstraction de tous les freins, de toutes les carapaces que l'on met pour se défendre vis-à-vis de l'extérieur. Jouir, c'est s'ouvrir. C'est exactement ça. Jouir, c'est de perdre cette volonté de se protéger de l'autre. Et à partir de ce moment-là, effectivement, quand on est ouvert, vous pouvez être pénétré. Et pas seulement au sens propre, au sens, surtout au sens figuré.
Absolument. Alors, je sais, je les entends malheureusement très souvent, les blessures des femmes, d'un amant maladroit, d'un abus, d'un consentement pas vraiment consenti, justement. Mais il me semble quand même que si, à la moindre blessure, on se ferme, c'est fini, on passe à côté de sa sexualité et donc de sa vie. Et je crois que c'est ça peut-être aussi, l'ouverture, elle se fait pour soi d'abord. Et puis bien sûr qu'on va traverser des moments plus compliqués, mais si on se ferme, c'est fini, quoi.
Oui, mais l'ouverture, c'est un risque. Je crois que c'est ça le principal problème. C'est-à-dire que s'ouvrir, c'est d'être capable de savoir qu'on va plus y gagner en se rendant vulnérable qu'en se protégeant, parce que là, on perd tout. Donc, et c'est là qu'il y a le problème du rapport avec son partenaire est important. C'est-à-dire qu'il faut évidemment lui faire confiance, mais il faut surtout ne pas avoir peur de lui et de ne pas avoir peur de faire tomber les murailles qu'on a mis pour... Et les femmes sont dans le combat, surtout en ce moment, les femmes sont dans le combat. Elles sont dans le combat pour l'égalité par rapport aux hommes, elles sont dans le combat professionnel, elles sont dans le combat...
Oui, mais bien sûr, je suis tout à fait d'accord qu'il faut aider les femmes à se libérer, mais si on veut les libérer en les fermant, je crois qu'on n'aura rien compris.
Ah bah non, c'est tout l'inverse.
On va aller avec des femmes de moins en moins aptes à avoir du plaisir sexuellement.
Oui, ça, c'est évident. C'est-à-dire que, en fait, être capable de s'ouvrir, c'est une force. C'est incroyable, mais c'est la réalité. Savoir se donner, c'est avoir être capable d'être assez fort pour ne pas le craindre. Et donc, cette ouverture est une force, alors que la majorité des femmes le vivent exactement dans l'inverse. C'est-à-dire, leur force, c'est la défense. C'est la protection.
Eh bien, donc, on va vous ouvrir au plaisir, mesdames. N'hésitez pas, en tout cas, à témoigner, à donner votre avis, à réagir, à poser vos questions, aussi bien sur le plan anatomique que sur le plan physiologique ou psychologique. 0826 300 300. À tout de suite.
14h, 16h. Brigitte Lahaie, Sud Radio.
Alors bien sûr, puisqu'on parle aujourd'hui de la jouissance féminine, qu'on va essayer de dédramatiser, j'ai presque envie de dire, il y aura forcément beaucoup de femmes qui vont nous appeler, mais les hommes sont évidemment invités également sur Sud Radio. Christian Jamin est avec nous et on va commencer avec Cathy. Bonjour Cathy.
Oui, bonjour, merci de m'accueillir et d'éventuellement répondre à mes questions. Voilà, donc je ne sais pas par quel bout commencer, mais disons que je vais avoir 70 ans et j'ai l'impression que plus j'avance en âge et plus c'est compliqué. J'ai l'impression d'être dans une impasse. Alors je résume très brièvement, hein, une vie avec les bonnes, enfin avec les sœurs. Donc c'est vrai que je me suis quasi pas caressée. Après j'ai eu mon mari pendant 12 ans. Lui c'était des pénétrations sans beaucoup de préliminaires, mais ça m'a jamais gênée. Et dirons que sexuellement cette période-là de ma vie a été la plus zen et la plus sereine. Après j'ai rencontré donc mon deuxième mari qui lui n'aimait pas trop, donc il fallait toujours que je demande, toujours que machin. Ça a duré très très peu de temps. Et là j'ai commencé à avoir un peu de frustration, à pas être très bien, puisqu'on a été consulté, mais enfin ça n'a pas servi à grand chose. Et ensuite après j'ai divorcé, et là j'ai eu beaucoup de frustration, puisque bon là faut chercher des partenaires, et moi draguer c'est un peu compliqué. Et là bon dernièrement je suis avec quelqu'un, mais je sais pas, ou c'est parce que je sais pas, c'est très très bizarre pour moi, dans le sens où quand il a envie, il peut me le demander par des bougies, des choses comme ça, mais j'aimerais qu'il soit, enfin qu'il m'embrasse, qu'il me donne envie, parce que sinon je pars. Après il fait en sorte que j'ai envie, mais si vous voulez, au démarrage j'ai voilà pas plus de... mon corps demande, par contre c'est ça qui est...
Mais voyez Cathy, déjà on vous a écouté, et dans votre témoignage vous parlez, je dirais même pas des préliminaires, vous parlez de ce qu'il y a en amont des préliminaires et de la sexualité. Et ça, c'est intéressant, parce que ça montre bien que la première zone érogène, du coup, c'est le cerveau.
Oui.
Alors, ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire qu'il faut que quelqu'un mette la bonne clé dans la bonne serrure pour vous ouvrir à la sexualité. Sinon, vous ne savez pas trop pourquoi ça fonctionne, pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi... Parce que vous n'êtes pas caressée, j'ai bien compris, quand vous étiez jeune.
Oh, très peu, très peu.
Aujourd'hui, est-ce que ça vous arrive de tout simplement de vous caresser de...
Oui, ça m'arrive, mais ça m'agace prodigieusement. C'est-à-dire que je le fais, ça dure 2-3 minutes jusqu'à ce que...
Ça vous embête. Ça n'a pas d'intérêt.
Je vais jouir, mais... ça m'apporte rien.
Vous allez jouir, mais ça vous apporte rien.
Non. Intéressant
quand même. Hein, donc pour vous, la jouissance ne sert que si elle est partagée avec un homme.
Oui, puis c'est une petite jouissance.
Vous savez, un petit plaisir, c'est toujours ça de pris. Hein.
Je suis pas contraire. Mais oui.
Non, mais vous voyez, encore une fois, c'est votre vécu, et c'est celui-ci qu'on écoute, et c'est celui-ci qui compte. Mais donc pour vous, la jouissance, elle est bien si c'est partagé avec un homme.
Ah, disons que je suis dans le parc. Bah oui, j'aime la relation avec l'autre. Alors par contre, juste une petite parenthèse. Un jour, je me suis passé un film et donc je me suis vraiment caressée très très longtemps. Je sais pas, ça m'est arrivé une fois dans ma vie. Et là, j'ai ressenti ce qu'on appelle la petite mort. C'est-à-dire que voilà, j'ai eu un arrêt sur image. Et là, je me suis dit voilà, ça, c'est ça. Parce que le plaisir que j'ai, c'est plaisant, mais je sais pas si ça m'amène à la satisfaction, parce que je suis un peu boulimique vis-à-vis du sexe. Il m'en faut beaucoup, et si j'en ai pas beaucoup, j'ai pas l'impression d'être là. Ça fait que 8 jours qu'on n'a pas fait, et je suis pas bien depuis 3-4 jours.
D'accord. Et pourtant, c'est pas forcément chaque fois que vous faites l'amour un orgasme qui arrive et que vous appelleriez la petite mort.
Ah non, non, ça, j'ai jamais plus. J'ai jamais eu. Je suis une femme fontaine, donc j'ai du plaisir. Ça veut dire que je lâche prise aussi. Mais j'ai pas l'impression que... Je sais pas. Parce que, déjà...
Et quelles questions vous aimeriez poser à Christian?
Ben, j'aimerais améliorer... Enfin, je sais pas. Pour moi, la sexualité en début de d'adolescence, ben, tout ça, c'était pas compliqué. Et plus j'avance en âge, plus ça devient compliqué pour moi. J'aimerais presque que mon corps ne me le réclame plus. Parce que là, je suis pas bien. En plus, quand je fais souvent l'amour, bah, ça me met de bonne humeur. Enfin, on le sait. Mais finalement, c'est tellement compliqué pour que, voilà, que mon ami vienne et tout ça, que ça finit que voilà. Il vient, il a envie, mais il fait ça bien, mais, je sais pas, c'est peut-être l'avant, des petites paroles. C'est vrai que l'autre fois, il m'a invité au restaurant. Bon, ça, c'est exceptionnel. Et c'est vrai que j'avais très, très envie de lui derrière. Alors, est-ce que j'ai besoin de ce préliminaire? Je pense. Je sais pas.
Vous avez l'impression qu'il est plus assez amoureux, plus assez attentionné, c'est ça?
Ah, notre relation est particulière. Je pense qu'il a jamais été amoureux, vraiment. La vie a fait qu'on habite chez l'un, chez l'autre. On a habité dans la même maison pour des raisons de...
Donc au fond, c'est un manque d'amour que vous êtes en train d'exprimer.
Oui, ça c'est vrai que ça en ferait du bien. Mais bon. Parce que c'est vrai que j'en ai... Je peux pas dire... Mon premier mari était violent, le deuxième c'était verbal, il était vraiment pas sympa. Lui, il est gentil, mais je pense très tourné sur lui-même. Bon, c'est vrai, bon, peut-être, oui.
Manque d'amour de qui? De lui pour vous ou de vous pour lui?
Ah, moi, j'ai été très, très amoureuse de lui pendant... Bah, on fait 4 ans qu'on est ensemble, j'étais très, très amoureuse, mais il a menti beaucoup, il m'a trompée. C'est des choses qui sont... Je sais pas, des fois...
Oui, bah... donc vous êtes blessée, donc fermée.
Peut-être, oui, je sais pas. Je sais plus. J'avoue que je suis perdue.
Oui, vous êtes malheureuse, on l'entend, Cathy. Oui. Mais voyez, je pense que cet homme vous a... Alors après, je ne sais pas, il faudrait ce serait une autre émission, mais cet homme vous a blessé, donc vous êtes renfermé un petit peu.
Ouais.
Et d'une certaine manière, maintenant, cette capacité à vous ouvrir n'est plus tout à fait présente. Et pourtant, votre corps le réclame.
Ouais.
Donc, est-ce que vous pourriez pas... alors, je sais que c'est compliqué pour une femme, mais est-ce que vous pourriez pas vous dire, après tout, il est là, je l'ai sous la main, j'en profite, et puis, à côté de ça, je me réalise égoïstement pour moi aussi.
Il y avait quelqu'un d'autre, c'est ça que vous voulez dire?
Non, je me réalise en tant qu'être humain, tout simplement. Et puis, vous verrez bien. Mais vous voyez, c'est ce besoin d'attendre tout de la même personne. C'est très féminin, ça. Sauf que on ne peut pas tout avoir d'un homme. Ce n'est pas possible. Ce premier rêve de petite fille qu'il faut à un moment donné mettre de côté si on veut se réaliser en tant que femme sensuelle, sexuelle et s'ouvrir.
Alors vous avez le temps de développer un tout petit peu en me disant qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour me réaliser moi. J'ai du mal à le comprendre. Enfin,
commencez par être heureuse avec ce qu'il vous donne et à le lui montrer. Ça serait déjà un progrès pour lui et pour vous. Et parce que, bah, comme on l'a dit, la majorité des hommes ne rêvent que d'une chose, c'est de faire jouir leur partenaire. Donc, si vous lui montrez votre plaisir et votre jouissance, vous verrez qu'il sera beaucoup plus présent.
Mais ça, je lui montre. Je vous dis, je suis une femme fontaine et tout, donc il le voit. Hein.
Avec lui?
Avec lui, oui. Mmh. Oui,
bon. Bah alors...
il le voit, mon plaisir. Il le voit. Ça, c'est plutôt...
Un peu d'indulgence, peut-être, Cathy. Cet homme vous a menti, je l'ai entendu. Est-ce qu'il vous a menti à vous ou est-ce qu'il ment parce qu'il y a quelque chose dans son fonctionnement qui se protège d'un passé difficile? Voyez, est-ce qu'il est malhonnête vis-à-vis de vous-même ou est-ce qu'il est malhonnête vis-à-vis de lui-même? C'est pas la même chose.
Non, disons que... Je sais pas, la dernière chose en date, bon, la jeune femme avec qui il avait dit, voilà, je me suis absentée une journée et il l'a amenée à la maison.
Bon, bah, ça, c'est pas cool, ça vous a pas plu, vous lui dites, et vous lui dites la prochaine fois tu vas ailleurs, et puis vous dites dans votre tête que vous avez aussi la possibilité d'avoir cette liberté-là.
Oui, puis alors quand je lui en ai parlé, il me dit mais vas-y, moi ça me gêne pas, j'ai dépassé ce genre de choses, fais ce que tu veux.
Eh ben, ben oui, mais c'est, encore une fois, si c'est un homme qui vous convient bien sur le plan de la vie commune, parce qu'il n'est pas violent et sexuellement, prenez ce qu'il vous apporte.
D'accord.
Si vous attendez de rencontrer à 70 ans le prince charmant, Cathy, vous allez le rencontrer dans une autre vie.
D'accord.
Je ne dis pas encore une fois que c'est agréable de savoir qu'un homme nous a trompés, a amené notre femme chez nous, etc. J'entends bien la blessure que ça provoque. Mais si vous restez sur ça, vous n'allez pas avancer.
D'accord.
Et plus vous allez dépasser ça, plus vous allez vous libérer. Et ça va améliorer et la relation et votre relation à vous-même.
D'accord.
Hein ? Soyez... C'est pas grave. Au fond, c'est pas grave.
C'est vrai, mais c'est, pour moi, c'est...
Ça a été douloureux, ça je l'entends bien.
Ça renvoie à une image, je me dis, bah, ça veut dire qu'il ne tient pas à moi, ou je sais pas, je sais pas, mais du coup, ça... Parce qu'elle a droit à plein de jolis mots, t'es belle, machin, tout ça, moi j'en ai jamais. Donc, des fois, je me dis, il faut être la maîtresse de quelqu'un pour être...
C'est peut-être aussi ce que vous imaginez, et c'est pas si certain que ça qu'il la traite mieux que vous. Ça serait encore à prouver, et ce serait son témoignage qui nous dirait la vérité. Mais j'entends bien que c'est comme ça que vous l'imaginez, en tout cas. Mais c'est pas forcément la réalité. Attention aussi à ce qu'on projette sous prétexte que notre souffrance nous aveugle un peu. On a tendance à voir tout en noir, et c'est pas forcément la réalité, Cathy. Bon courage, en tout cas. Allez, on se retrouve dans un instant et on va retrouver Fleur Chérie, notre sexy news.
Brigitte Lahaye, Sud Radio, c'est l'instant sexy news.
Eh bien, Christian Germain, nous retrouvons Fleur Chérie. Bonjour, Fleur.
Bonjour, Brigitte.
Alors, vous allez nous parler des mystères de la sexualité ?
Oui, parce que je pense qu'on est tous un petit peu d'accord ici. La sexualité, pendant très longtemps et aujourd'hui encore, c'est un territoire mystérieux que l'on essaye un petit peu tous de défricher en ce moment. Et moi, je vois tout le monde dans les médias crier au scandale. On nous a menti. En fait, l'éjaculation et l'orgasme, c'est pas la même chose. On nous a menti. En fait, le clitoris fait la taille d'un oisillon mort, à peu près. On nous a menti. En fait, les grosses bites, c'est bien, mais ça vaut pas un bon cuni pour faire jouir une femme. J'accuse. Non, ça, c'est un autre sujet médiatique. Pardon, ça n'a rien à voir. Et donc, tout le monde s'insurge. Mais enfin, pardonnez-moi, quelle bêtise! On avait tout intérêt à ne pas ouvrir la boîte de Pandore, à ne pas croquer le fruit défendu de la connaissance scientifique. Parce que quand même, est-ce qu'on n'était pas mieux quand, par exemple, on nous faisait croire que l'hystérie féminine existait? Enfin, rendez-vous compte, c'était une époque où les femmes allaient chez le médecin pour se faire masturber. C'était quand même un alibi admirable d'ingéniosité pour te faire financer un amant par ton mari. Et puis, c'était quand même pas mieux, ce monde sans YouPorn? Bah oui, du temps où la masturbation, ça rendait sourd. Hop, fini les problèmes d'adolescents qui se paluchent devant l'écran et deviennent incapables d'aborder une femme décemment sur Tinder. Les règles, ça tue les blés dans les champs. Loin de nous l'envie de patauger avec les bœufs et avec une faux dans les champs. Les femmes clitoridiennes sont restées au stade infantile. Et ben, ça nous rajeunissait un peu, le sperme c'est bon pour la peau et hop, des économies d'esthéticienne. Non mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas un hasard si on arrive en 2019 en ayant plus de connaissances sur l'évolution et la composition détaillée des nappes phréatiques en Artois Picardie que sur le mystère de l'éjaculation féminine. Mais reconnaissons que nous sommes tous responsables là-dedans. Ces petits mythes et légendes là, ça nous a bien arrangé. Bon, donc aujourd'hui, la big news du jour, on avait réussi à vous faire croire que l'on avait deux orgasmes, un vaginal et un clitoridien. Ok, démasqué, c'était une façon simple et efficace d'expliquer aux hommes qu'il fallait être un peu au four et au moulin. Mais en fait, il n'y en a qu'un seul et il se stimule de façon interne ou de façon externe. Donc si on est responsable d'une génération de paresseux chez les âmes, faudra plus se plaindre. Bon, évidemment, je rigole. Hein. Bien sûr que la méconnaissance et l'analphabétisation qui nous touchent encore dans la sexualité ne cessent de m'étonner aujourd'hui. Et non, ce n'est pas parce qu'on vient de découvrir qu'il n'y a qu'un seul orgasme féminin qu'on ne nage pas toujours en plein Moyen-Âge du cul. Par exemple, on ne sait toujours pas vraiment aujourd'hui si le clitoris, qui, je le rappelle, a toujours la taille d'un petit oisillon, là, elle a purement pour notre plaisir sexuel ou aurait carrément un rôle dans la reproduction humaine, comme le suggère, avec une quarantaine d'études, le chercheur Roy Levin, en parlant du rôle important du tractus génital féminin, c'est-à-dire le système d'oxygénisation du vagin ou la baisse de son acidité, qui jouerait un rôle important pour accueillir les spermatozoïdes. Bon, je veux dire qu'on est en 2019, je sais qu'il y a des molécules d'eau à structure dipolaire dans les nappes phréatiques et qu'elles tiennent notamment par des forces électrostatiques en Artois-Picardie, ça c'est au programme de SVT du lycée, mais je ne sais pas si le clitoris a un rôle dans ma reproduction. Et si oui, s'il a un rôle, dans quelle mesure? Je ne sais toujours pas ça. Je ne sais pas avec quoi on s'est raconté l'histoire de notre sexualité, une chose est sûre, on l'a clairement écrit avec un autre organe et d'autres outils que notre cerveau et notre microscope, et il serait peut-être temps d'apprendre à les réutiliser.
Alors la réponse, Christian Jamin, sur le clitoris et la reproduction.
Bah, j'ai pas plus d'explications que les autres. Je pense que le clitoris, ça permet de lever les angoisses lors des rapports, puisque ça fait décoller, si je puis dire, et que il y a beaucoup de stérilité psychologique. Énorme, semble-t-il. Il y a beaucoup de couples qui n'arrivent pas à faire d'enfants parce qu'ils ne pensent qu'à ça et qui ne sont pas capables tout simplement de faire l'amour pour jouir. Et que le jour où on fait l'amour pour jouir, on est probablement beaucoup plus fertile. Alors, est-ce que ça passe par de la chimie ou par de l'alchimie? Je ne sais pas. Mais je suis convaincu que le clitoris a un rôle fondamental, c'est de vous aider à perdre la tête.
D'accord. Donc, c'est comme vous, quoi, finalement. Le sang, il est dans le clitoris ou dans le cerveau, comme il est dans le gland ou dans le cerveau, quoi. Finalement, il y a un point commun entre les hommes et les femmes, donc. C'est rassurant.
Oui, encore une fois, je suis frappé, moi, par le nombre de couples qui viennent me voir parce qu'ils n'arrivent pas à faire d'enfants. Et je leur explique, écoutez, avant de faire de la médecine, je vais vous expliquer comment on fait les enfants. Et donc, je leur explique ce que c'est qu'une sexualité productive, si je puis dire, qu'il faut ranger la courbe de température, casser le thermomètre, perdre l'adresse du médecin, faire l'amour régulièrement, ne pas compter les jours, et j'ai des succès formidables, et je fais faire beaucoup d'économies à la sécurité sociale, uniquement comme ça. Donc, effectivement, comme vous venez de le dire, je pense que le clitoris participe largement à cette politique du retour à la nature pour faire des bébés comme dans le temps.
Ouais. Mais juste à vous écouter, on entend, bah vous dites casser le thermomètre et faites l'amour régulièrement, mais qu'il y a quelque chose d'assez, c'est vrai, une question d'alchimie, qu'il y a quelque chose d'assez mystique, entre guillemets, dans la façon de faire les enfants. Et je trouve ça, moi, difficile en 2019 de ne pas savoir expliquer clairement et de façon biologique, parce qu'il y a clairement des ressorts biologiques, comment on fait un enfant. Ne serait-ce que cette histoire de clitoris dans la reproduction.
Non, mais attendez, il y a des tas de femmes qui sont malheureusement sans clitoris et qui ont des enfants parfois même plus facilement que nos femmes occidentales qui se posent tant de questions sur le bon moment pour avoir des enfants.
Je dis pas que c'est un rôle indispensable et qu'on doit avoir un clitoris pour faire un enfant. Je dis que si le rôle du clitoris n'est pas négligeable dans la reproduction, ce serait quand même bien qu'on le sache ou qu'on l'apprenne.
Oui. Est-ce que c'est nécessaire de savoir pour réussir? Ça, c'est une autre question.
Je pense qu'il faut mieux savoir que pas savoir.
Alors, sur certains points, pour construire un pont, je pense qu'il faut en effet, il est mieux de savoir et de faire appel à des ingénieurs qui ont fait de vraies études. En revanche, pour tout ce qui concerne le plaisir, j'ai l'impression que plus on nous en dit, moins on avance, parce que j'ai l'impression qu'il y a plus de femmes aujourd'hui qui ont des sexualités compliquées que de femmes épanouies, comme c'était le cas il y a une vingtaine d'années. On avance, ok, on sait que le clitoris, comme vous le dites si joliment, la taille d'un petit oiseau mort. J'espère quand même qu'il fait encore cuicui pour la plupart d'entre nous. Mais au fond, ça nous a aidé à quoi de savoir que... Moi, ça fait longtemps que je me doutais bien qu'il y avait quelque chose qui passait quand même à l'intérieur du vagin.
Non, alors moi, mon opinion, allez-y. C'est que la nature ou Dieu, qui vous voulez, a donné du plaisir dans tout ce qui était indispensable à la vie, au bonheur, etc. Donc, on a inventé le goût pour pour avoir envie de se nourrir, et on a inventé le plaisir pour avoir envie de se reproduire. Et donc, si le clitoris est un organe de plaisir, c'est pour moi, rien que pour ça, un grand organe de reproduction.
Et parce indispensable.
Et indispensable. Donc, on n'a pas besoin de savoir si ça sécrète des ions plus, des ions moins, de je ne sais quoi. Juste que si ça vous donne envie de jouir, eh bien c'est comme ça que vous ferez des enfants. Et que si vous faites des enfants en écartant les cuisses uniquement parce que c'est la date du cycle, ça ne marchera pas.
Donc, en tout cas, ça marche moins bien.
Ou ça marche moins bien.
Attention aux mots qu'on prononce, Christian Jamin. Ça vous va, Fleur Chérie ?
Je suis pas tout à fait d'accord avec ça, et en particulier, par exemple, comprendre qu'un clitoris, bon, la taille d'un oisillon, quelque chose de grand, de long, qui est innervé, qui va en bas, comprendre qu'un vagin, c'est quelque chose avec des muscles, qui va venir en serrer, peut-être que, et que ça a un rôle important, c'est-à-dire un rôle actif et non pas un rôle passif dans la sexualité. C'est une narration qu'on va créer autour de la sexualité qui joue un rôle dans la façon dont on va se comporter avec son partenaire. Si on a un trou passif, qu'on a une méconnaissance sur sa vulve, qu'on ne comprend pas comment ça fonctionne, on ne va pas du tout se comporter de la même chose si on sait maîtriser son périnée, savoir stimuler son clitoris.
Mais Fleur Chérie, j'entends ce que vous dites et je le respecte, et après tout, très bien les informations. Mais je pense que en ce qui concerne la sexualité, la jouissance, le plaisir, ça passe par du ressenti, ça passe par le corps, ça passe pas par l'intellect. Et de savoir que notre clitoris, il a telle forme, je suis absolument certaine que ça n'aidera pas une femme de plus à jouir quand elle a un cunis.
En tout cas, ça aidera les hommes à savoir à peu près où est-ce qu'il faut le stimuler, ce qui n'était pas forcément le cas il y a 40-50 ans, parce qu'on se disait, elle est vaginale ou clitoridienne, c'est pas bien.
Il y a plein d'hommes aujourd'hui qui pensent qu'il faut mettre un doigt à l'intérieur parce que coup, ils vont toucher les racines. C'est très bien pour certaines femmes. Pour d'autres femmes, c'est carrément inhibant.
Il y a aussi énormément de stigmatisation, ce qui est moins le cas aujourd'hui avec la jeune génération, mais par exemple sur la masturbation clitoridienne, on va dire sur le capuchon du clitoris. Pendant la pénétration, beaucoup d'hommes se disaient « Mais non, normalement, tu dois jouir de cette façon avec la pénétration. » Aujourd'hui, grâce, en tout cas, avec la façon dont on parle de sexualité et une nouvelle narration, on comprend bien qu'il faut se masturber parfois, en même temps, de façon clitoridienne, et c'est admis, et les hommes le voient plus comme une intrusion sur l'acte de pénétration, qui était l'acte un peu phare de la sexualité, et toute intrusion pouvait être mal vécue. Aujourd'hui, c'est de moins en moins vrai.
Oui, sauf que la masturbation, c'est plus proche du plaisir que de la science. Et donc, quand vous dites qu'il faut apprendre à se masturber, effectivement, pour avoir du plaisir, ça me paraît tout à fait légitime, mais ça n'a rien de scientifique. C'est juste savoir se laisser aller à profiter de son corps. Et de connaître la biochimie du clitoris, je ne suis pas sûr que ça donnera quoi que ce soit de plus à la sexualité.
Bon, en tout cas, vous n'êtes pas d'accord, c'est toujours intéressant de débattre, et on va voir, peut-être que ça va faire réagir ceux qui nous écoutent. 0826 300 300, n'hésitez pas en tout cas à réagir. Fleur Chérie, merci en tout cas. Je rappelle votre dernier livre, Le guide de survie sexuelle des timides, c'est aux éditions Tabou. Allez, on se retrouve dans un instant pour notre caution sexuelle avec Julien.
Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons
vrai. Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Parlons vrai. Sud Radio, Brigitte Lahaie, le quotient sexuel.
Alors c'est Julien qui va tester son quotient sexuel avec peut-être l'aide de Christian Jamin. Bonjour Julien.
Bonjour Christian, bonjour Brigitte.
Bonjour Julien.
Alors première question, comment on appelle une femme qui peut avoir plusieurs orgasmes ?
Une chanceuse ?
Non ? Oui, bien sûr. Une femme normale.
Une perle.
Oui, une femme multi-orgasmique.
Et ben voilà la bonne réponse, absolument. C'était pas bien compliqué comme question, mais votre humour m'amuse. Bravo, bravo Julien. Deuxième question, qu'est-ce qu'on appelle une douche d'or ?
Ah oui, je connaissais le terme anglais. C'est quand on a plaisir à se faire uriner dessus.
Absolument, c'est une bonne réponse. Une douche d'or, c'est en effet de l'urine. Voilà, c'est joli comme expression.
C'est un joli nom. Ouais.
Et qu'est-ce que c'est qu'une paraphilie ?
Une quoi ?
Paraphilie.
Une paraphilie ?
Oui, Julien.
Paraphilie.
D'ailleurs, la douche d'or pour certains, est considérée comme une paraphilie.
Paraphilie. Est-ce que ça a à voir avec le côté médical ?
Pas du tout.
Pas du tout, d'accord.
Avec le grec, c'est sûr.
Et oui. Donc, ça va être contre quelque chose. Je pense qu'on va se protéger de quelque chose par la philie, qui serait...
Christian, aidez un peu.
Non, para, ça veut dire à côté. Ça veut pas dire.
À côté, pardon.
Ça veut pas dire contre.
Ah, d'accord. Ah oui. Donc, à côté. À côté du. Alors là, on va. Est-ce que vous pourriez me le mettre en contexte ?
C'est une sexualité. Quand on dit c'est une paraphilie, c'est donc une sexualité paraphile.
D'accord, non, c'est des travers, une pratique sexuelle.
Absolument, voilà.
Qui n'est pas socialement acceptée.
Je vous accorde la bonne réponse. En fait, c'est le nouveau terme de perversion, en fait. C'est-à-dire que
d'accord.
C'est une sexualité qui est un peu hors norme.
Oui, un peu déviante. Voilà. Mais bon, c'est pas forcément mal, mais. Enfin, dans mon esprit. Mais...
dans le mien aussi, c'est pas forcément mal.
Mais Phyllis, ça veut dire aimer.
Ah, bien sûr. Oui,
c'est
oui.
D'aimer aimer la chose d'à côté, si je puis dire.
Pas la femme d'à côté.
Ouais, écoutez, ça se peut aussi.
Ah oui, bah c'est déjà une paraphilie d'aimer la femme d'à côté quand elle est mariée et qu'on est soi-même marié.
Oui.
Exactement. Et oui, moi j'avais comme référence la maladie de l'amour. Du coup, je cherchais dans ce cadre-là, mais c'est vrai que j'étais un petit peu loin.
Mais c'est tout simplement le terme qui a remplacé perversion, parce que perversion, c'était un peu dur, alors qu'il y a des paraphilies. Pour certains, par exemple, la sodomie, c'est déjà une paraphilie.
Oui, bien sûr, oui.
Voilà, bon...
C'est-à-dire que c'est, dès qu'on quitte le missionnaire, on est dans la paraphilie, quasiment.
Peut-être pas
à ce point-là.
N'exagérons rien.
À chacun sa paraphilie, en fait.
Voilà, à chacun son missionnaire.
D'accord.
Bon, en tout cas, bravo Julien, c'est un sans faute, en tout cas.
Merci, vous m'avez bien aidé sur la dernière.
Un petit peu, monsieur, c'était de bonne guerre. Vous avez répondu de façon tellement magistrale aux deux premières qu'on pouvait vous aider un petit peu. Merci beaucoup Julien, en tout cas.
Merci à vous.
Au revoir.
Alors justement, c'est important aussi de bien comprendre que la sexualité, elle est, j'allais dire, elle est presque hors norme pour chacun d'entre nous. Et c'est ça aussi qu'il faut comprendre pour arriver à ce que les femmes se libèrent.
Oui, c'est ce que moi j'aime bien le fait de dire que être paraphile, c'est pas être pervers. Parce que pour moi, la perversion induit quelque chose de négatif et de punition, alors que la paraphilie, c'est juste qu'à partir du moment où on est consentant et qu'on aime ça tous les deux, ça ne me paraît pas du tout condamnable. Donc c'est très bien d'avoir remplacé perversion par paraphilie.
Oui, je pense que c'était une bonne chose. C'est la sexologie qui a changé le terme. Carole, bonjour.
Oui, bonsoir.
Bonjour Carole.
Bonjour.
Bonsoir à 14h51.
Le déclic.
C'est l'heure de la sieste, c'est pas l'heure de la nuit.
Oui, je fais les deux. Ne m'en tenez pas rigueur surtout.
Mais non, pas du tout.
Merci de m'appeler, merci.
Alors je vous écoute Carole, allez-y.
Alors tout à l'heure on m'a posé la question et il est certain que dans mon cas c'était le sentiment que je privilégiais. Je n'ai jamais pu cet acte-là pour moi était bâti sur du sentiment. Par conséquent tout le reste après était normal pour moi.
Voilà. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a un tout petit peu entendu aussi avec Cathy, qu'on entend avec Carole, Christian Jamin. C'est une idée, encore une fois, très, très ancrée, que la femme a besoin de sentiments pour, pour se donner sexuellement.
Pas toutes.
Non, mais c'est une idée très...
Certes, la majorité, oui, parce que... alors là, bon, faut voir d'où ça vient. C'est-à-dire que ça vient de l'éducation où l'amour, on le fait dans un couple. Un couple, c'est le produit de l'amour. Et donc, la sexualité est le produit du couple, donc de l'affection. C'est très répandu, c'est très social, c'est très bien, mais il y a des femmes pour qui c'est le contraire. Il y a beaucoup de femmes qui ne peuvent jouir que quand elles n'ont pas d'investissement, parce que ça leur permet de se libérer justement de toutes les contingences, de la peur de perdre, de la peur de décevoir, etc., etc. Et il y a des femmes qui ne sont heureuses que quand elles font l'amour avec quelqu'un qui n'importe pas pour elles, parce qu'elles sont dans l'acte pour l'acte, et non pas dans l'acte comme l'aboutissement d'un sentiment profond qu'elles ont peur d'abîmer.
Eh oui, moi je vais vous décevoir alors, parce que il est certain que moi, à la base, c'est la tendresse, et je peux vous dire que je ne sais pas, je ne l'ai pas expérimenté, par conséquent, je ne peux pas en parler, mais sans tendresse, moi, j'aurais pas pu. J'aurais été rigide, je crois.
Et donc, avec tendresse et sentiment, vous avez des orgasmes?
Ah oui, 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 tout à fait.
Bon, ben alors...
Il y a une espèce de libération qui se passe dans la mesure où il y a la confiance dans l'être qui est en face de moi. Moi, quelqu'un d'inconnu, j'aurais pas pu faire l'amour avec. Maintenant, c'est trop tard pour en faire l'expérience. Mais malgré mon âge, il y a 10 ans, je suis tombée amoureuse sur la fin de ma vie. Eh bien, je peux vous dire que c'est quelque chose qui a réveillé en moi des choses qui ne se serait pas passé si je n'avais pas eu cette base de tendresse, d'affection. Et voilà.
Mais ce que je crois, enfin, moi, ce que j'ai envie de dire, et comme je suis une femme, je vais l'affirmer haut et fort, et ça va peut-être aider des femmes qui écoutent. Je crois que le problème de beaucoup de femmes, c'est qu'elles ne pensent que le désir ne vient que de ce frisson qu'on a pour un homme, parce qu'il nous plaît, parce qu'on est tombé amoureuse, parce que etc. Mais on a en soi du désir, quoi, et enfin, je veux dire, de la joie, et c'est peut-être on n'a pas besoin d'avoir des sentiments pour avoir un orgasme.
Mais peut-être que pour les unes ou les autres, c'est comme ça. Mais moi, en ce qui me concerne, je n'aurais pas pu, par conséquent, ce qui m'est arrivé.
Oui, mais Carole, j'entends bien, Carole, mais ce que je veux dire, et ça je le dis parce que je suis une femme et donc je peux l'affirmer, ce que ne pourrait pas faire un homme, je veux dire que notre corps est tout à fait capable d'avoir un orgasme avec un étranger et un inconnu. C'est pas parce que il y a pas un système hormonal ou je ne sais quoi qui fait qu'il faut qu'on soit amoureuse pour avoir un orgasme.
Oui, mais là où l'orgasme, c'est une levée d'inhibition au niveau du cerveau où on lâche prise, hein, c'est classique. Et il y a des gens qui lâchent prise parce que l'affect les accompagne, et d'autres qui ne lâchent pas prise justement parce que l'affect prend le dessus et les empêche de se libérer. Et donc, j'allais dire, tout à l'heure, vous avez dit, vous allez être déçu. Je suis pas déçu du tout, c'est-à-dire que je pense qu'il en faut pour tout le monde, et puis même chez une même personne, il y a des circonstances de la vie qui vous font découvrir des choses très différentes. Et pour moi, l'essentiel, c'est d'être heureux, et je ne porte pas de jugement de valeur entre l'une et l'autre.
Bien sûr, mais il faut pas rester dans cette croyance que la femme a besoin d'aimer pour avoir de la vie.
Certaines, oui, mais si elles aiment, tant mieux.
Bien sûr, mais les jeunes qui écoutent et qui arrivent sur le marché, faut pas les mettre dans ce biberon-là dès le départ.
Voilà, il faut leur expliquer que tout est possible.
Exactement. Merci Carole. On va continuer à évoquer le plaisir féminin dans la deuxième heure, mais d'abord la devinette, quel est le point commun entre une femme et un monte-charge? Christian Jamin, la réponse est après les infos.
14h, 16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
En compagnie de Christian Jamin, on évoque donc le plaisir féminin. N'hésitez pas en tout cas à nous appeler si vous avez des questions à poser à Christian Jamin, qui est gynécologue et endocrinologue. 0826 300 300. Je voulais en profiter pour signaler la sortie de ce livre qui m'a un peu donné l'idée de l'émission d'ailleurs. Oser l'orgasme féminin, c'est dans la collection des Osées de la Musardine. Ça a été écrit par Marie Minelli. Et alors, c'est assez simple, mais si déjà toutes les femmes savaient ça, ça serait bien, hein, Christian Jamin.
Ah oui, c'est un bon lexique, si je puis dire. C'est-à-dire, effectivement, mais c'est plein de bon sens. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui en tireraient grand profit.
Voilà, et c'est toujours une collection qui est bien faite. Alors, j'ai vu un chiffre qui serait officiel. 20 à 30% des rapports sexuels déboucheraient sur un orgasme pour la femme. Pas beaucoup, hein?
Non, c'est pas beaucoup. Mais peut-être qu'on est mauvaise langue, là, c'est là-dessus.
Que les hommes soient mauvaise langue, oui, ça c'est sûr. Oser l'orgasme féminin, voilà. Alors, la réponse à ma devinette, quel est le point commun entre une femme et un monte-charge?
Je réponds?
Si vous voulez, si vous la connaissez.
Ah non, bon, non, je ne la connais pas, mais c'est qu'il suffit d'un doigt pour le faire envoyer au ciel.
Non, ce n'est pas tout à fait ça, parce que le point commun entre une femme et un monte-charge, quand ça ne marche pas, il faut décharger à la main.
Ah, c'est bien aussi.
C'est pas mal aussi.
Il y avait deux réponses.
Je vous accorde aussi la vôtre. Sandra, bonjour.
Bonjour. Ben moi, je suis pas dans les 20 à 30%. Hein.
Ah, bah, tant mieux pour... Pardon.
Non, pas tant mieux.
Pas tant mieux. Excusez-moi, Sandra.
Mais bon, grâce au conseil de Christian Vianin, mon jour est debout, ça va peut-être le faire.
Ben, j'espère bien. On s'y attelle. On va essayer de mettre le doigt dessus, Sandra.
C'est ça. En tous les cas, merci Brigitte, parce que je vous ai connue à la radio un jour, je déménageais, que j'ai quitté un compagnon. Et j'aime beaucoup votre approche, votre sincérité et votre douceur. C'est vraiment très agréable.
Merci Sandra.
Faut que je témoigne.
Oui. Alors qu'est-ce qui vous arrive? Dites-nous comment vous avez du plaisir ou vous n'en avez pas, je ne sais pas.
Alors moi, c'est un beau bordel en fait. C'est un vrai bazar. Il y a eu deux sortes de jouissances en fait. C'était une jouissance vaginale, on va dire. Et ça se passait souvent, quoi, ça se passait toujours. Quand ça se passait, j'étais sur un homme, donc j'étais en Amazon. Donc je sais pas si c'est une question de positionnement. Et après, j'ai connu la masturbation très tard, donc j'ai 46, donc j'ai connu à 40 ans. Et après, ça a dû me débloquer. Du coup, maintenant, j'ai qu'une jouissance clitoridienne. C'est pile ou face, quoi. Et plus du tout vaginale. Donc, c'est un peu compliqué.
Et donc, cette jouissance que vous appelez clitoridienne, vous l'avez lorsque vous faites l'amour avec un homme et parce que vous vous caressez en même temps?
Non, c'est quand il...
Quand il vous fait un cunni?
Exactement.
D'accord.
Exactement. Alors c'était bloqué, ça s'est bien débloqué, mais le reste s'est rebloqué, quoi, du coup. Et c'est vraiment, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, que je vous remerciais, c'est que une fois j'ai écouté votre émission, et vous parliez des gens qui avaient subi des abus dans leur enfance, ce qui est mon cas à certains niveaux, et vous disiez soit c'était l'abstinence, soit c'était la quantité. Donc moi j'étais plutôt dans la quantité, donc ça m'a rassurée, je n'étais pas nympho. Et par contre je pense qu'il y a une jouissance, le corps et l'esprit a dû se séparer. Donc je peux très bien jouer avec quelqu'un que je n'aime pas, et justement j'arrive pas à jouer avec quelqu'un que j'aime. Il y a, je sais pas si je suis très claire.
Si, c'est très clair.
C'est que je pense qu'il y a quelque chose qui est fermé. C'était plus facile de donner la pénétration que d'offrir autre chose, ou de recevoir, peut-être plus en réception. Et j'avais un comportement à l'époque plus jeune, plus masculine, donc il ne fallait que de la pénétration. Et maintenant, en m'aimant plus, en ayant une meilleure connaissance de moi, de mon corps, ça a basculé. C'est pas une obligation, la jouissance, parce qu'il y a des plaisirs différents. Mais c'est vrai que quand on a connu ça, ça n'a rien à voir. C'est pas obligatoire. Mais après, il y a une sorte de, comment dirais-je, pas de compétition, mais on veut absolument l'atteindre. Et je pense que plus on veut l'atteindre, plus plus je me bloque, en fait.
Ça, c'est clair, oui. Mais de toute façon, déjà, Sandra, vous avez de la jouissance.
Oui.
Donc, quoi qu'on en dise, vous faites partie, en effet, de ces 20 à 30%.
Bon, alors, yes.
Non, mais c'est déjà important de le rappeler.
Oui, c'est vrai. Et par contre, ce qui est bizarre, c'est que je peux en avoir moi toute seule en 5 minutes, quoi. Donc c'est super, je ne suis pas en dépendance affective, mais j'aimerais le partager avec mon amoureux. Parce que c'est frustrant en tant que femme et c'est frustrant pour lui.
Alors,
en tant que
Sandra, je vais essayer d'expliquer quelque chose qui ne s'explique pas, mais quand même, le clitoris est un organe terriblement innervé. C'est l'organe le plus innervé de tous les corps humains qui existent. Donc, il est évident que si on le stimule, l'orgasme arrive très facilement. C'est pas le cas du vagin. Donc le vagin, c'est quand même plus un orgasme qui va se faire, si je puis dire, qui va exploser de part entière, alors que le clitoris peut tout à fait être stimulé par... Par, je dirais même presque par un doigt étranger. On vous bande les yeux et on laisse un inconnu ou une inconnue vous caresser le clitoris, vous pouvez jouir.
Ça marche. Hein?
Ok. Tandis que l'orgasme vaginal, c'est quelque chose qui est déjà plus complexe, de toute façon. Donc c'est normal qu'il y ait plus de femmes qui arrivent à une jouissance clitoridienne facilement que de femmes qui arrivent à une jouissance vaginale.
Ouais, ben moi, je pensais l'inverse. Je pensais que c'était plus élaboré. D'accord.
Oui, enfin, élaboré d'abord. Il faut savoir ce que vous entendez par élaboré. C'est vrai que, comme le dit Brigitte, le clitoris, c'est un organe très innervé et donc à rien l'excite. Le vagin, c'est plus la dilatation des parois vaginales qui induit du plaisir. Donc, il faut une pénétration, il faut du temps, il faut... Et donc, ce que vous disiez à l'instant, c'est-à-dire que, effectivement...
C'est bizarre, alors, oui.
Le clitoris, c'est une excitation qui nécessite pas forcément l'affect ou de l'affection. C'est très mécanique. Le vagin, il y a besoin de se laisser aller pour que, petit à petit, la jouissance monte et devienne profonde.
Sandra, ce qu'on peut imaginer dans ce que vous racontez dans vos débuts, hein, vous étiez donc sur l'homme, en train de vous frotter quand même le pubis sur son ventre, avec une pénétration, et donc vous deviez provoquer une stimulation à la fois interne et externe de votre clitoris, avec certainement quelque chose de très, de très fort et je dirais même de très revendicateur, pour vous prouver à votre propre corps que vous êtes maîtresse de votre jouissance. Donc là, il y a certainement une dimension psychique qui entre en jeu. Et vous obteniez cet orgasme qui était une sorte... Alors encore une fois, là, je fais une analyse un peu rapide, mais qui était une sorte de revanche sur votre agresseur. Je peux devenir sujet et non plus objet de la sexualité de l'autre.
Oui, c'est la crise de ma jouissance. D'accord.
Voilà. Donc ça a marché un certain temps et ça vous a certainement fait beaucoup de bien, parce que je le répète, la sexualité, c'est aussi très réparateur de nos blessures. Ça vous a permis de dépasser quelque chose. Et puis ensuite, vous découvrez une jouissance clitoridienne et vous avez plus besoin de cette jouissance un peu violente. Enfin, violente, elle n'était pas violente, de cette jouissance active. Et donc, ça ne vous intéresse plus beaucoup. Et si vous faites encore la position en Amazon, comme vous n'allez pas chercher cette revendication, les stimuli ne sont plus les mêmes. Mais encore une fois, c'est une interprétation que je fais, c'est à vous de la trouver, l'interprétation. Mais je vous donne des pistes.
C'est une bonne interprétation. Je vais prendre la piste, Je ne l'ai pas vu comme ça. C'est intéressant. Oui, c'est vraiment intéressant.
Voilà. Et donc, aujourd'hui, et c'est tant mieux, vous êtes passée du cap de femme un peu phallique au cap de femme qui s'ouvre. Donc, ouvrez-vous encore plus. Et à mon avis, la jouissance, quand vous serez pénétrée, parviendra, y arrivera.
D'accord. Je progresse. Il faut que je continue dans l'ouverture.
Oui, mais vous avez toutes les raisons pour que vous arriviez à cet orgasme complet, si je puis dire, puisque vous l'avez quand même d'une certaine manière connu. Mais il faut juste que vous le fassiez maintenant en ouverture et non plus en revendication. En tout cas,
d'accord,
vous êtes
plus dans le conflit, plus dans la revanche. Je comprends, je crois.
En tout cas, vous faites partie des femmes qui ont des orgasmes. C'est ça qui compte. Après, les moyens de les obtenir, ils sont multiples.
Bon, je suis pas à plaindre. Ok, je prends.
non seulement vous n'êtes pas à plaindre,
c'est le cas de le dire.
Mais en plus, bravo, parce que vous avez avancé dans la connaissance de votre corps. Vous avez repris votre corps en main.
C'est pas vu comme ça aussi, oui.
Donc c'est plutôt. Ça prouve qu'il y a de la résilience et que vous êtes sur la bonne voie.
Oui, c'est vrai, je suis contente.
Eh bien voilà. Merci de votre témoignage, en tout cas, Sandra.
Oui, j'espère que ça aura aidé. Merci beaucoup à vous deux. Merci.
Je vous en prie.
Au revoir.
Au revoir.
On se retrouve dans un instant avec Carole Cédio qui nous a rejoint tout de suite.
Brigitte Lahaye, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News.
Eh bien, Christian Jamin, nous accueillons Carole Cédio, pédagogue jungienne, et qui va nous parler donc de la sexualité. Que penserait Jung de la sexualité féminine, alors ?
Alors, bonjour Brigitte. Avant, on va remettre un petit peu les choses en... Voilà, on va caler les choses par rapport à qu'est-ce que Jung a pu dire ou penser de la sexualité. Parce qu'on a souvent dit, et ça c'était dans l'opposition qu'on mettait entre Jung et Freud, que Jung ne s'était pas du tout, intéressé à ce qu'était la sexualité d'une manière générale, et plus particulièrement féminine. Donc il n'a jamais nié, bien sûr, l'importance de la sexualité dans le développement de la psyché, puisqu'il relie toujours, bien évidemment, une chose avec une autre. Il en a une vision différente que Freud. Effectivement, la vision différente, ça sera aussi dans la notion et dans ces deux mots qui sont « désir » et « plaisir ». Alors, on va partir de ce mot « désir », qui est donc effectivement cette notion, cette libido. Et pour lui, ce désir-là, c'est ce qui va animer l'individu et qui ne sera pas, comme peut le suggérer Freud, uniquement quelque chose qui va être de l'ordre de la pulsion, de l'instinct. Il va la mettre en relation aussi, cette notion de libido, avec ce qui va... le désir, c'est ce qu'il... Il le met en relation avec un mot que je vais un petit peu préciser, parce que sinon il y a souvent des confusions. Cette libido, pour Jung, c'est l'âme, dans le sens de qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui me meut, qu'est-ce qui me met en vie, qu'est-ce qui fait que je vais me lever le matin, que je vais être transportée et que je vais avoir envie, effectivement, d'aller rejoindre quelque chose de cet ordre d'un peu plus grand que moi. Donc pour lui, la sexualité va faire partie de cela et ne sera pas simplement qu'une réponse, on va dire, de génitalité, si je puis dire, effectivement un désir, une pulsion à laquelle je vais répondre d'une manière ou d'une autre. Ça veut dire que ce désir va être là pour amener à un plaisir plus grand que cette dimension de jouissance immédiate qui va faire du bien au corps, et c'est très bien. En quoi elle va peut-être pouvoir m'amener plus loin avec moi et surtout avec l'autre. Donc, encore une fois, dans cette sexualité pour Jung, c'est comment je vais communiquer via effectivement une autre énergie, une autre dynamique et avec un corps, puisqu'on a aussi un corps. Comment je vais communiquer avec moi, avec l'autre et à travers l'autre. En tout cas, pour Jung, ce qui va être de l'ordre de la sexualité va peut-être m'amener à contacter quelque chose qui peut me grandir, qui peut m'amener à une transcendance peut-être, à une autre dimension de moi-même. Donc quelle expérience dans ce qui est de l'ordre de mon intime, de mon intimité, va pouvoir me permettre peut-être de mieux me relier et de communiquer avec l'autre. Pour lui, c'est une expérience différente, une différence qui va me singulariser aussi dans... Qu'est-ce que je vais découvrir de moi? Qu'est-ce que je vais découvrir de l'autre à travers, justement, ce qui est de l'ordre de la sexualité?
Oui, et d'ailleurs, quand on sait à quel point les personnes qui sont déprimées, voire en dépression, sont coupées de leur désir, on est d'accord sur le fait que le désir, c'est ce qui nous anime, hein, au sens dont vous venez de le dire, Christian Jamin.
Oui, alors, Jung, à travers vous, part de l'esprit pour se grandir et pour se dépasser, alors que quelqu'un comme moi qui travaille beaucoup sur les hormones, moi, je pars de l'inverse. C'est-à-dire que la caresse fait... La caresse, au sens large, fait sécréter des hormones, et en particulier une d'entre elles qui est très à la mode, qui s'appelle l'ocytocine, et qui est l'hormone de l'affection et de l'attachement. Et donc, il y a là un paradoxe entre Jung et moi, cette fois-ci, en toute modestie, excusez-moi. C'est-à-dire que moi, je pars du corps pour aller à l'âme, tandis que Jung part de l'âme pour aller au corps. Et donc, j'aimerais avoir votre opinion sur...
L'important, c'est la rencontre.
Oui.
Moi, par rapport à ce que vous dites, moi, j'aurais envie de prendre la métaphore de l'œuf et de la poule. On ne sait pas qui c'est qui a commencé, mais ça fonctionne.
Oui, certes.
Donc, dans la pensée de Jung... Rien n'est unilatéral. Je pars du corps pour rejoindre l'esprit ou l'âme, ou justement, puisqu'il y a tout ce que vous venez de mettre en visibilité, mon âme ou mon esprit saura se connecter à quelque chose qui est plus de l'ordre de cette biochimie du corps.
Mais on arrive à quelque chose de très intéressant, c'est l'unicité entre le corps et l'âme.
Absolument.
Et donc, effectivement, où est la poule, où est l'œuf, peu importe, mais on ne peut pas dire qu'on aime avec son âme et qu'on jouit avec son corps. C'est pas vrai. Là, c'est les deux.
Oui.
Et donc, effectivement,
parce qu'il y a la rencontre avec ces deux-là.
Notre discussion amène à cette conclusion.
Oui. Donc voilà, ça me semble important, justement, d'aller vers la totalité. Nous ne sommes pas qu'un corps, mais nous ne sommes pas qu'un esprit.
Oui. Dirige l'autre ?
Oui, mais ce qui est
probablement aucun des deux.
Voilà, mais c'est intéressant votre discussion à tous les deux, Christian Jamin, Carole Cédio, parce que ça montre bien que dans un couple, quand l'un ne veut que passer par le corps pour jouir, il oublie une dimension fondamentale qui relie les deux membres du couple. Et de même que si l'autre ne veut passer que par l'esprit et se refuse à la sexualité, ça ne fonctionne plus non plus. Donc on voit bien que les couples qui arrivent à durer dans l'harmonie, et c'est les couples qui continuent à faire l'amour tout en étant quand même dans une communion d'âme, au sens de l'âme, comme vous le dites, et non pas de religieux, évidemment.
Alors, on retrouve là la discussion qu'on avait avec une auditrice précédente qui nous expliquait que son plaisir ne passait que par l'âme. C'est un peu ce qu'elle disait. Et moi, je lui ai répondu, il y a des gens dont le plaisir ne passe que par le corps qui amène à l'âme. Et donc, et là, Brigitte, vous venez de faire la synthèse en disant, en fait, les couples sont plus solides quand on fait fonctionner les deux.
Vous êtes d'accord avec ça, je suppose, tous les deux.
Oui. Mais ça veut dire une chose, c'est qu'il faut essayer d'éviter de rester campé sur une position en disant...
Absolument.
Je
il
n'y
a
ne
pas
jouis...
que le missionnaire, je suis d'accord.
Voilà, il n'y a pas que le missionnaire. Je ne jouis que si j'aime ou je n'aime que si je jouis.
Absolument, oui.
Hein
oui.
Donc
mais
ça,
mais chez Jung, il n'y a jamais une seule chose et pas une autre. Il y a toujours un face-à-face, un vis-à-vis. Et on peut reprendre le mot.
Mais en même temps, alors si je comprends bien, il avait inventé, mais en même temps.
Voilà, en même temps, oui, mais le temps n'est pas forcément le même pour l'un ou pour l'autre. Mais en fait, il s'appuie beaucoup. Le mot désir pour Jung, il s'appuie sur l'étymologie du mot, hein, desiderare. Et qu'est-ce que ça veut dire ce mot? Ça veut dire c'est la nostalgie d'une étoile. Donc le désir, ça veut dire c'est quand on dit nous dans notre langage, on va pas demander la lune. Mais justement, c'est cette relation avec quelque chose de...
Il faut laisser aux hommes voir notre lune, quoi.
Oui, on peut le dire comme ça, mais il y a une quête de l'impossibilité, justement, de cette fameuse reliance, justement, qui est le cœur, qui est l'âme, qui est l'esprit, tous ces mots-là n'auraient pas de sens si on les incarnait pas, c'est-à-dire si on n'avait pas un corps. Et c'est notre corps qui vient nous dire qu'on est dans cette incarnation.
Mais là où peut-être tout le monde va vous comprendre, Carole Cédio, c'est que c'est vrai que quand on regarde la sexualité animale, on ne voit pas très bien où est l'âme. Alors que chez l'humain, la sexualité, elle n'est pas aussi pulsionnelle et animale. Donc, c'est bien qu'il y a autre chose quand même qui nous anime.
Oui, alors, oui et non, parce que, en réalité...
Oh, vous êtes chiant aujourd'hui.
Oui, excusez-moi si vous m'obligez à réfléchir, je ne suis pas habitué.
Allez-y, je vous en prie.
Non, mais il est vrai que, quand vous dites que chez les animaux, il n'y a pas l'âme, il y a la pulsion, c'est-à-dire en principalement l'olfaction, pour en revenir à un sujet classique, qui déclenche le cerveau. Voilà. Alors que chez l'homme, c'est le cerveau qui déclenche, souvent, c'est le cerveau qui déclenche le désir. Et donc, oui, mais peut-être que les animaux, finalement, ils démarrent pas du même endroit, mais ils arrivent au même point, c'est-à-dire qu'on arrive à l'extase et au bonheur. Voilà. Et je pense que les animaux sont heureux quand ils font l'amour.
Les femelles, certaines fois, on peut en douter. Hein.
Oui, mais c'est parce que les animaux ne font pas assez de préparation. Quoique la danse du pan en fait partie.
Bon, en tout cas, merci Carole Cédio de cet éclairage et de cette discussion que ça a amené. Et puis, je vous invite, vous aussi, à réagir. 0826 300 300, à tout de suite.
Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Le Love Conseil.
Alors Christian Jamin, si je vous parle de gorge profonde, ça vous dit quelque chose ?
Ça me donne le vertige.
Bon, vous vous souvenez peut-être de ce titre de film pornographique, oui. Très célèbre. Hein. C'était donc une pratique de fellation, puisque la femme avait un clitoris au fond de la gorge, et donc elle adorait faire des fellations puisqu'elle prenait un orgasme. Alors, ce film, aujourd'hui, il est très controversé par les femmes, hein, puisqu'elles considèrent que c'est un film totalement machiste, etc. Bon, moi je trouve que c'était plutôt drôle. C'est un film en tout cas, il a eu un grand, grand succès à son époque. C'était un des premiers films pornographiques des années, la fin des années 70. Alors, évidemment, ce fantasme est très fréquent chez les hommes. Mais c'est pas une pratique si simple parce que il faut rappeler que on a ce qui s'appelle une glotte hein, au fond de la gorge qui a pour but de nous empêcher d'avaler quelque chose de trop gros.
Voilà. Hein,
c'est bien ça.
C'est bien donc, ça. Quand, et trop profond.
Voilà. Donc quand on a un pénis qui touche cette glotte, bah, ça nous donne envie de vomir. Mais c'est un réflexe de survie parce que si on avalait votre pénis, on aurait du mal à l'avaler.
Comment le savez-vous?
Voilà, donc c'est juste pour rappeler que tout ça est complètement normal, mais en tant que femme, on a quand même des possibilités de tricher. Et c'était ça le propos de mon Love Conseil. Parce que si vous placez trois doigts, hein, l'index, le majeur et le pouce réunis à la base du pénis, bah, à ce moment-là, vous pouvez aspirer la verge autant que vous le voulez, en donnant l'impression que vous l'avalez jusqu'au fond, sauf que c'est votre main, enfin c'est vos doigts qui vont fermer l'angle en bas du pénis. Et donc l'homme aura le même sentiment que vous êtes complètement au fond de votre gorge, il aura cette sensation de gorge profonde, sauf que ben, vous n'aurez pas cette sensation d'avoir envie de vomir, qui est en effet très désagréable. Bon, en plus, avec l'autre main, vous pouvez masquer un petit peu l'action, et comme ça, tout le monde sera content. Voilà, c'est juste pour rappeler que c'est normal, cette envie de vomir, qui dérange parfois beaucoup les femmes, c'est mécanique, voilà, c'est tout.
Bien, bah écoutez, je suis content qu'on ait trouvé des parades à la nausée de la fellation.
Mais oui, bah parce que les hommes aiment bien avoir la sensation de s'engloutir jusqu'au bout et les femmes, après, se sentent dévalorisées, etc. Bon, il faut juste un peu de technique et puis voilà tout. Voilà. Et tout le monde s'y retrouve. Alors, on va parler des Trois Suisses. Alors, vous allez me dire, pourquoi parler des Trois Suisses dans une émission sur le plaisir, Christian Jamin ?
Ah bah parce que je sais pas, moi, peut-être qu'il y a des femmes qui aiment aller dans les grands magasins, c'est peut-être ça.
Non, pas vraiment. En tout cas, on est en ligne avec Karine Schrenzel. Bonjour Karine.
Bonjour Brigitte.
Vous êtes présidente des Trois Suisses, et alors c'est très très drôle, moi ça m'a beaucoup fait rire. Vous avez, vous relancez, si je puis dire, les Trois Suisses avec ce masseur de joues. Donc un petit peu d'histoire peut-être pour les jeunes qui nous écoutent.
Bien sûr, alors effectivement, on a repris les Trois Suisses il y a à peu près un an, et on s'est dit, bon, c'est super, c'est une marque magnifique, patrimoniale, etc. Et c'est une marque qui a, les Trois Suisses, c'est une des premières marques à démocratiser la mode, mais aussi à démocratiser le plaisir féminin. Et donc, on s'est dit, ben, en fait, comment on fait ce trait d'union entre une superbe histoire, une marque audacieuse, et aussi le fait de la dépoussiérer, de la lui redonner, de donner un nouvel éveil. Et très vite, on a tous des moments partagés au quotidien avec cette marque patrimoniale. Et donc, évidemment, on a parlé d'abord du catalogue, et très vite, on est arrivé sur les hommes qui disent, ah oui, la planche lingerie, bien sûr, c'est mes premiers émois, ou ce masseur de joues extraordinaire, puisqu'à l'époque, on ne pouvait pas dire un vibromasseur, donc on appelait ça un masseur de joues. C'était vendu en tant que masseur de joues, qui était extraordinaire.
Oui, c'était donc une photo d'une femme qui avait un sextoy, hein, puisque maintenant on les appelle comme ça. Oui. À l'époque, c'était donc un godemiché sur la joue. Et, qui... enfin, moi j'ai souvenir, en tant que petite fille, d'avoir feuilleté les Trois Suisses de ma maman. Je n'aurais jamais imaginé que c'était un truc pour avoir du plaisir au niveau de la vulve. Hein.
On est d'accord, je feuilletais aussi le catalogue. Je n'imaginais pas ça. Mais effectivement, on la voit avec le sextoy sur la joue pour avoir des joues fermes, comme ils disent.
Alors, donc, moi, ce qui m'intéresse, Karine Schanzel, je suppose que vous avez cette info. Combien, à l'époque, les Trois Suisses vendaient de masseurs pour joues par correspondance ?
Alors, j'ai pas le chiffre exact, mais c'était, on sait que la lingerie et le sextoy, c'était vraiment un gros, gros morceau des ventes. Oui. Alors après, ils ont aussi démocratisé la mode, parce que la mode à petit prix, c'était quand même un des premiers et plus accessible à tous. Mais la lingerie et la partie sextoy, donc à l'époque, ma sœur de jeu, n'est-ce pas, était clairement hyper importante. Et c'était aussi les premiers sous-vêtements, un peu les premières photos dénudées qui étaient accessibles facilement à tous, en fait, hein, sur ce catalogue. Donc, voilà, c'est quand même... on a voulu faire un clin d'œil parce qu'on s'est dit... Bon, d'abord, il n'y a pas de... C'est quand même avec l'audace que la marque s'est créée, puis avec le rire que c'est très amusant. Et on a ressorti, effectivement, le masseur de jour, en ressortant la photo historique de l'époque et en remettant au goût du jour.
Bon, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup amusée. Alors, dans votre... Dans votre publicité, hein, peut-on prêter son masseur de joue? Oui, pour encore plus de sensations, vous pouvez demander à votre partenaire de masser votre joue. Vous allez jusqu'au bout de l'hypocrisie.
Voilà, on se dit si déjà, il faut rigoler, on a fait un code promo qui décuple le plaisir, n'est-ce pas, qui permet d'obtenir ce masseur de joue. Donc on dit que c'est le premier code promo qui décuple votre plaisir d'achat. Et puis, effectivement, on a posé plein de questions, comme peut-on prêter ce masseur de joue? Et on a été jusqu'au bout parce qu'on s'est vraiment marré aussi en le faisant, en interne, dans l'équipe. Et puis, on s'est dit que, ben voilà, on a même dit, n'attendez plus et partez à la recherche de votre point J. Voilà, avec le masseur de joue.
Pas mal.
Voilà. Et ça a été repris par plein de gens qui ont eux-mêmes ont fait des blagues en disant, je bénéficie de joue assez ferme, mais trois fois par jour, je me sens quand même beaucoup mieux. On a eu comme ça pas mal de reprises marrantes. Et c'est vrai que... on oublie, hein, mais c'est vrai que c'était très tabou encore dans les années 80. Hein, on ne parlait pas de sextoy ou autre.
Et non, le sextoy, ça a commencé à se démocratiser en 2003, je crois. Hein. C'est fou, hein, d'ailleurs, d'imaginer ça.
Alors, il y avait déjà un point commun qui était les lèvres, entre la vulve et le visage. Et maintenant, voilà la joue qui...
Donc, mais en tout cas, ça a été, c'est vrai que ça a été, je crois que tout le monde avait ce souvenir de ce masseur de joue. Même certains m'ont dit, ah, mais c'était ça! Et je lui ai dit, bah oui, c'était ça, avec le recul. Donc c'est vrai que c'était d'embarquer aussi les gens entre le trait d'union du passé et puis de ce qui est aujourd'hui quand même plus, un peu plus ouvert. On espère de pouvoir ouvrir un peu et dénoncer différents diktats. Voilà.
En tout cas, pour info, Karine Schrenzel, moi j'ai quand même des hommes qui m'ont raconté que quand ils étaient gamins, 13-15 ans, ils feuilletaient les trois Suisses de maman pour s'exciter un petit peu devant des gonzesses un peu à poil. Hein.
Oui, ben clairement, les pages lingerie, c'était...
Le jeune homme que j'ai été confirme.
Et vous n'aviez pas deviné que c'était à quoi servait ce masseur de joue, alors, Christian Jamin, à l'époque.
Non, mais moi, je n'avais pas souvenir des masseurs de joue, mais j'ai des souvenirs de ces très jolies femmes avec ces lingeries et très érotiques qui étaient effectivement les premiers émois des adolescents.
Alors, je suppose qu'aujourd'hui, bien sûr, les Trois Suisses, c'est un magazine, mais c'est également beaucoup de ventes par Internet, je suppose, aujourd'hui, vous êtes...
Oui, alors bien sûr, mais en même temps, justement, là aussi, la première chose, les premiers moments, les premiers souvenirs, avant la lingerie ou le masseur de joue, c'était quand même le catalogue. Et donc, ça, pour nous, c'était vraiment... ça nous a tenu à cœur de ressortir un catalogue qu'on a ressorti là il y a un petit mois, parce que justement c'est aussi une autre façon de faire son shopping, quelque chose de beaucoup plus personnel, plus émotionnel aussi, qu'on fait en famille, qui peut être partagé et qu'on peut regarder, mettre de côté sur sa table de salon puis re-regarder. Donc on a vraiment ressorti le catalogue, même si bien évidemment aujourd'hui il y a beaucoup de commandes via Internet, c'est aussi des gens qui regardent et feuillettent le catalogue puis ensuite se rendent sur Internet pour commander. Donc moi je trouvais que c'était important de remettre un peu d'humain dans un quelque chose qui est quand même très dématérialisé et le web qui est souvent assez froid, assez fonctionnel, et on s'est dit il faut qu'il y ait quand même comme flâner dans une petite boutique qu'on connaît bien. Le catalogue, c'est un peu ce chemin où on peut se balader, quoi.
Oui, oui, et puis on peut feuilleter, se dire tiens, ça, pourquoi pas, et puis finalement le laisser reposer et le lendemain faire ses achats.
Absolument. Exactement, pour le regarder en prenant le café, le petit déj.
Merci en tout cas, Karine Schrenzel, et puis moi j'applaudis à demain cette belle campagne de pub.
Merci à vous deux.
Natacha est avec nous maintenant. Bonjour Natacha.
Bonjour.
Merci de réagir.
Merci. Merci de m'accueillir. Alors, je voulais rebondir sur le fait que ma vie sexuelle s'avère être plus jouissive quand je suis avec des relations non ordinaires qu'avec mes conjoints en règle générale, enfin mon conjoint. Et ça me pose problème parce que je sais pas comment faire pour que ce soit bien avec mon conjoint.
D'accord. Donc quand vous êtes avec un homme que vous venez de rencontrer, vous vous lâchez. Quand vous êtes avec votre partenaire habituel, il y a une réserve, hein, c'est ça.
C'est beaucoup plus compliqué. Mmh. Ouais. Mmh. C'est beaucoup plus
compliqué. Quand vous, alors attendez, parce que cet homme avec qui vous êtes, par exemple aujourd'hui, vous l'avez rencontré à un moment donné.
Oui, tout à fait.
Donc,
oui, oui.
Les premières fois, c'était compliqué déjà, ou c'est par la suite que ça devient compliqué?
Alors, en fait, j'ai découvert la jouissance à 45 ans et lui, je l'ai rencontré à 29. Donc, c'était du plaisir, mais pas franchement de la jouissance, mais ne connaissant rien d'autre, bah, ma foi, on fait avec ce qu'on a.
D'accord.
Ne connaissant rien d'autre. Et en fait, aux alentours de 43 ans, je me suis fait brancher par un gars dans la rue et puis j'ai découvert autre chose et puis je m'aperçois que ce que j'ai à la maison, c'est pas ce que j'arrive à avoir d'autre part, quoi.
D'accord.
Et c'est compliqué, quoi.
Alors, il y a plusieurs hypothèses, Natacha. Peut-être que quand vous aviez 20 ans, bah, vous n'étiez pas suffisamment encore à l'aise pour avoir la jouissance que vous avez aujourd'hui et que votre couple, bah, bon an, mal an, il s'est construit comme ça. Ou alors, c'est en peut-être fait, que votre homme ne vous fait pas ce qu'il faut vous faire pour vous faire jouir.
En fait, je pense qu'il y a plusieurs choses. Bon, déjà, mon homme, je le connais depuis 28-29 ans.
Ouais.
Avant, je devais avoir 18 ans, j'étais en BTS ou un truc comme ça. J'ai eu une expérience avec deux hommes et ce jour-là, j'ai vraiment fait la femme fontaine. Seulement, ça m'a tellement foutu la trouille, ce truc-là. Je savais pas ce que c'était. Les garçons avec qui j'étais, qui avaient le même âge que moi, donc on n'a pas su ce que c'était. Ça a été et je me suis foutu la trouille. J'ai vraiment eu la trouille de
oui,
ça.
Vous et, avez eu peur de ce qui se passait.
Je pense qu'il y a dû y avoir une petite mort au passage, parce que j'ai eu l'impression d'émerger avec une mare de « mais qu'est-ce qui s'est passé ?» J'ai vraiment chopé un stress pas possible. Et j'ai commencé à vous écouter, je devais avoir une trentaine d'années, 35 ans par là. Et donc, j'ai commencé à comprendre, je me suis dit « putain, ça devait être ça ».
Donc, c'est terrible ce que vous êtes en train de me dire, parce que ça veut dire que pendant des années, vous êtes resté avec cette peur et donc forcément une fermeture qui vous a certainement empêché d'avoir de la jouissance. Restez avec nous, on vous reprend dans un instant, Natacha. On fera réagir évidemment aussi Christian Jamin.
14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
En compagnie de Christian Jamin, on parle de la jouissance féminine. Vous disiez, Christian Jamin, que certaines femmes jouissent mieux avec des amants de passage qu'avec leur partenaire habituel. C'est un peu le cas, c'est votre cas un peu, Natacha. Mais vous nous racontez aussi que donc à 18 ans, avec deux hommes, vous devenez femme fontaine. Donc c'était tout au début de votre sexualité. Ça vous a un petit peu fait peur. Vous n'avez pas compris hein, ce qui vous arrivait. Vous en avez parlé à personne, donc la réponse, vous l'avez eue tardivement, donc presque 10 ans après. Et...
Oui,
oui, mais c'est important parce que je crois que le principe de la femme fontaine, c'est vraiment une ouverture totale. Et si on a peur que quelque chose se produise, on ne peut plus s'ouvrir. Donc il y a eu forcément un moment donné où pendant des années, votre sexualité, elle était un petit peu fermée, quoi, pour reprendre le terme que j'utilisais au début de l'émission. Alors maintenant, où est-ce que... Enfin, quand vous faites encore l'amour avec votre partenaire habituel ?
Oui, oui, tout à fait, oui. Mais lui, il a eu droit à 10 ans de... 10 ans de sexe par force. Enfin, moi, je me forçais, je faisais la planche à la repasser, quoi. Pour dire que je faisais ce que vous appeliez il n'y a pas très longtemps le devoir conjugal, parce que j'y trouvais strictement aucun plaisir. Mais bon, non, je me forçais une fois par mois ou une fois par quinzaine à le satisfaire. Et donc effectivement le fait de m'être fait draguer et d'avoir essayé, eu cet amant m'a fait comprendre que il y avait autre chose qu'on pouvait arriver à vivre quand même quelque chose à ce niveau-là et c'est quelque chose que je voudrais arriver à vivre avec mon mari, quoi, mais c'est compliqué. C'est compliqué parce que j'ai le fait d'essayer de lui expliquer, sachant qu'il l'a su, le fait de l'expliquer fait plutôt ça que comme ça, et ouais, c'est bon, l'autre il te le faisait. Bon, voilà, ça revient sur si je veux lui expliquer comment je le ressens, quelque part, il me remet dans mes retranchements en me disant
oui, ça crée à nouveau un conflit, c'est clair. Mais voilà. qu'est-ce qu'il faut vous faire justement pour que vous jouissiez ?
C'est vrai qu'il y a toute la partie préparation en amont où effectivement, comme disait une des premières intervenantes, où s'il n'y a pas bon, je vais pas jusqu'au resto, j'en ai pas besoin, mais moi le soir à 22h quand je vais me coucher, j'ai pas envie de faire l'amour. Je suis désolée, j'y arrive pas à cette heure-là, c'est pas possible. Mais par contre, si effectivement à partir de 5 ou 6 heures l'après-midi, mon mari, là, il m'a envoyé un texto où il s'est rappliqué en ayant fait les courses. Pas grand-chose, mais en ayant fait quelque chose pour la maison. Là, forcément, je suis... Voilà, il a pensé à moi par d'autres biais, pas spécialement en ramenant des fleurs.
Natacha, est-ce que vous pouvez entendre que cette mise en condition qui va vous donner l'envie de faire l'amour... Vous pourriez peut-être vous-même la mettre en place. Et si vous lui faites l'amour, et si vous avez du plaisir, et s'il voit que enfin il vous fait jouir, je peux vous assurer qu'il en fera encore plus après.
Et la mettre en place comment ?
Ah, vaste question. Mais c'est de ça dont je parlais quand je disais c'est à la femme de s'ouvrir.
Parce que j'avais essayé d'instaurer un rendez-vous du mardi soir où le mardi soir avant le repas on se réfugie dans notre piole et là effectivement on s'est essayé à plein de trucs, des massages, des bougies, le lit bien fait avec éventuellement des fleurs, on se l'est amusé pendant un certain temps.
Et ça a marché.
Effectivement, c'était super.
Et ben c'est ça déjà.
L'inconvénient, c'est que le boulot que j'ai repris après m'a usé psychologiquement et mon mari a plus osé continuer parce que j'étais assez crevée.
Il faut peut-être retrouver un autre moment que le mardi soir si vous êtes crevée. Mais voyez, Natacha, déjà il y a une chose qu'il faut dire à votre mari chaque fois qu'il vous remet votre amant sur le dos, si je puis dire. Natacha, vous lui répondez, écoute, c'est grâce à ça, hein, pas grâce à lui hein, surtout, mais c'est grâce à ça qu'aujourd'hui notre sexualité va mieux et qu'on a trouvé un second souffle. Hein, déjà. pour arrêter toute critique et toute discussion sur ce qui s'est passé. Première chose. Ça, c'est très important.
J'ai peur de lui balancer ça, quoi, vraiment.
Non, mais il faut bien lui faire comprendre que vous avez traversé une crise, ok, mais cette crise, elle a été bénéfique pour votre couple. Vous allez en faire quelque chose de positif. Ça, c'est très important, parce que sinon, vous rentrez dans des disputes ou des discussions qui sont négatives, et pour l'un et pour l'autre. Alors maintenant, oui, s'ouvrir, c'était ça, ce que vous faisiez le mardi soir.
Oui, et puis, peut-être que c'est à vous de le regarder différemment. C'est-à-dire qu'il faudrait peut-être le regarder comme un amant et pas comme un vieux compagnon de route. Et donc ça, c'est difficile à faire, mais c'est vrai que quand on vit ensemble, on finit par se voir comme ses compagnons de route et pas comme ses aventures du moment. Et donc il faudrait peut-être de votre côté, mais aussi du sien, mais de votre côté à vous, à essayer de le regarder, je dirais, comme un amant et non pas comme un mari.
Parce qu'en tout cas, votre témoignage le prouve, vous avez envie de rester ensemble et vous avez envie que ça fonctionne mieux sexuellement.
Oui.
Bon, donc vous avez compris que votre corps, il est capable d'exulter, comme j'aime bien dire, et donc, allez-y. Mais allez-y en le guidant plus par votre corps que par vos mots, parce que vos mots, forcément, le renvoient à ce que l'autre vous aurait dit ou ce que l'autre vous aurait fait, voyez ?
Bah, j'essaye, mais on n'a pas la même carte visuelle, visiblement. j'ai plus de mal. C'est vrai que j'essaye effectivement de lui montrer, de lui exprimer.
Non mais Natacha, je vous ai posé la question très clairement. Je vous ai dit, mais qu'est-ce qui vous a fait jouir ? Si c'est le contexte d'un nouvel homme qui vous a séduite et qui vous a parlé, et qui, etc. Ça, votre mari, il a 20 ans de retard, hein, si je puis dire. Donc ça ne marchera pas. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que vous avez découvert que votre corps pouvait jouir. Vous avez un homme sous la main, s'il bande bien, s'il est capable de vous caresser, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Après, s'il est manchot...
C'est plus les caresses qui sont un peu expédiées, un peu... inexistante, quoi.
Ah bah, il faut peut-être un peu de temps pour l'aider à y arriver. Et puis s'il n'y arrive vraiment pas, en effet, là, vous ne pourrez rien faire. Mais il faut du temps pour l'aider à apprendre à vous caresser, puisque ça fait je ne sais combien d'années que vous ne lui avez pas demandé de le faire.
Ouais.
Vous voyez ? C'est-à-dire qu'il a sa part de responsabilité, mais vous avez aussi la vôtre. Et si vous partez sur simplement sa part de responsabilité à lui, ça ne marchera pas. C'est vous aussi qui, pendant 30 ans, avez accepté de faire le devoir conjugal sans essayer de l'éduquer.
Oui.
Donc, il faut que vous preniez aussi votre part de responsabilité. Après, est-ce que vous allez y arriver tous les deux ? Ça, je ne peux pas vous répondre. Mais si vous faites l'effort de prendre votre part de responsabilité, ça peut marcher. Maintenant... On est là pour vous écouter une nouvelle fois, si vous le désirez, bien sûr.
Ouais, c'est vrai que c'est trouver les mots pour...
Non, ce n'est pas les mots, c'est les gestes, Natacha. C'est sur le terrain que ça se travaille. Merci en tout cas. Merci Christian Jamin. On se retrouve bientôt. Il y aura encore beaucoup de choses. Hein. J'avais dit que 2 heures, ça ne suffirait pas. On se retrouve bientôt. Tout de suite, je vous laisse en compagnie de C'est votre avenir. Et demain, on évoquera les nouvelles façons de vivre l'amour.